Eh bien, je vous invite à suivre deux lectures dans le Nouveau Testament. La première sera dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 1er, les versets 1 à 14. Et ensuite, ce sera l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 29. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Ensuite, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 9. Les versets 1 à 29. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non. Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avait donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, de même il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet du Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, mais pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet, dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qui est dit dans le livre d'Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » En effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole, avec justice, en effet, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous ouvrons ta parole, cette parole que tu as inspirée, et donne-nous ce soir de la comprendre, donne-nous ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous permettre de la comprendre non seulement avec notre tête, mais aussi avec notre cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous dans la vérité. Amen. Alors quand je suis venu tout à l'heure, l'un de vous m'a dit « Tu choisis vraiment les sujets à controverse. » En réalité, je ne sais pas si j'ai déjà, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai eu une première formation en théologie ici à Lyon, dans le Lyon-Ouest, et le pasteur qui me formait à l'époque, qui était l'implanteur d'église, m'avait demandé de faire une étude de ce chapitre 9 de Romains, juste avec ma Bible et avec le grec que j'avais commencé à étudier, sans aide, sans concordance, sans rien, juste la Bible. Et il n'était pas réformé, ce pasteur. Et à la sortie, j'ai sorti 3-4 pages de ce texte, et il m'a dit, eh bien, je dois avouer que je ne peux rien dire contre tout ce que tu as écrit, et par la suite, lui-même est devenu réformé. Comme quoi, nous avons tous à apprendre les uns des autres. Mais j'aimerais commencer par, c'est un sujet, vous l'avez constaté, assez difficile. Je vais essayer de le rendre le plus simple possible, et surtout le plus biblique possible. Mais j'aimerais commencer par une petite charade. Mon premier est un terrain produisant de l'herbe qui sert à la nourriture du bétail. Elle est très facile, hein, les enfants peuvent la comprendre. Mon second fixe de façon irrévocable le cœur des événements. Mon troisième est un groupe de personnes qui ont une origine commune. Et mon tout est une doctrine biblique principalement enseignée par Jésus, Paul, Augustin, Calvin et beaucoup d'autres. Vous l'avez deviné, prédestination. Alors la prédestination ou l'élection ou le choix éternel de Dieu est une question qui revient constamment lorsque nous lisons l'Écriture sainte. lorsque nous réfléchissons sur l'évangélisation et dans notre vie de tous les jours. Est-ce que vous vous êtes déjà peut-être posé la question, suis-je un élu? Y a-t-il des élus? Qu'en est-il de notre liberté de choix? Alors d'abord, qu'est-ce qu'une élection? Alors le sens du mot signifie faire une sélection, faire un choix. Et c'est vrai que nous sommes constamment en train de faire des choix, de sélectionner quelque chose ou quelqu'un. Pour les Jeux Olympiques, on sélectionne les meilleurs athlètes de la nation. Si vous avez la télévision, vous avez un très grand choix de programmes, vous êtes constamment appelé à faire des sélections. Vous allez au restaurant et on vous donne une carte avec des menus différents. Et encore une fois, il y a toutes sortes de sélections possibles, sans parler de la sélection des vins. Notre société est une sorte d'immense supermarché dans lequel on en prend et on en laisse. Alors, nos choix, nos sélections, nos élections, qu'elles soient municipales, régionales ou nationales, nous mènent de façon régulière à faire des choix, des sélections, des élections en fonction de quoi? En fonction de ce qui nous est le plus souvent avantageux, de ce qui est souvent le plus rentable, ce qui nous plaît le plus, n'est-ce pas? Alors vous savez sans doute qu'au Japon, par exemple, certaines entreprises sélectionnent leurs cadres en fonction de leur calendrier astral. Depuis quelques années, on sélectionne le personnel à partir d'une prise de sang, car paraît-il, il serait maintenant possible de détecter dans le sang les possibilités et la capacité d'une personne. Alors vous voyez jusqu'où l'on peut aller en vue d'obtenir le meilleur produit ou ce qui est le plus rentable. Alors, la Bible nous parle d'élection divine, mais est-ce en ces termes que Dieu fait une sélection? Dieu fait-il un choix en fonction de ce que nous sommes ou en fonction de ce que nous deviendrions? Heureusement, la réponse est non. L'élection divine n'a rien à voir avec notre concept de sélection. Les choix de Dieu ne sont pas faits comme nous les faisons. Les critères de son choix ne sont pas les nôtres. Nous, nous sélectionnons en fonction du meilleur produit, du plus rentable, du plus avantageux, mais pas Dieu. Alors prenons l'exemple d'Israël, le peuple choisi. Pourquoi est-ce que Dieu aurait-il choisi Israël? Parce qu'ils étaient meilleurs que les autres nations? Alors écoutez ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 7. C'est Dieu qui dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Alors, sans nous donner la raison ou les raisons de son choix pour Israël comme peuple élu, Dieu veut que nous sachions que son choix n'est pas en fonction d'une supériorité quelconque de cette nation. Les Israélites n'étaient pas meilleurs que les autres peuples. Ils avaient d'ailleurs très peu de qualités recherchées par Dieu. À plusieurs reprises, Dieu a dû dire à cette nation, « Vous êtes un peuple au cou raide, au cœur insensible, un peuple rebelle. » Et dans notre texte ce soir, et dans ce chapitre 9 de Romains, il est question du choix de Jacob plutôt que d'Ésaü. Certains diront que Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü parce que Dieu avait prévu, vu d'avance, que Jacob serait meilleur que son frère Ésaü. Alors il l'aurait choisi pour cette raison. Alors qu'est-ce que Dieu aurait prévu, vu d'avance en Jacob? Qu'est-ce que Dieu aurait vu ou connu d'avance qui influencerait son choix éternel? Rien de très glorieux. Si vous prenez le temps de lire ou relire l'histoire de Jacob avant que Dieu ne touche ton cœur, vous voyez un personnage très peu intéressant. C'est un rusé, un trompeur, un malin, un roublard. Ce fourbe a été jusqu'à se déguiser en profitant de la vieillesse de son père qui avait perdu la vue pour se faire passer pour son frère aîné et pour ainsi recevoir la bénédiction qui devait être donnée à son frère. Dieu n'a pas choisi Jacob parce qu'il était meilleur qu'Ésaü. Alors, de quoi dépend notre élection? Alors revenons au chapitre 9 de Romains au verset 11. « Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle, c'est-à-dire Dieu. Alors, Dieu ne dit pas pourquoi. Il choisit certains et il passe à côté d'autres. Ça fait partie des choses mystérieuses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais il nous dit avec certitude que ce n'est pas en fonction de quelque chose de meilleur qui serait en nous ou qu'il aurait prévu, même avant notre naissance. Alors notre réaction, c'est comme celle que l'apôtre Paul relève. Il anticipe quelque part les gens qui vont dire exactement ce que j'ai entendu toute ma vie. C'est injuste. L'apôtre Paul dit, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et il devance notre interrogation, voire notre indignation. Alors il écrit au verset 14, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. » Alors nous allons voir pourquoi le choix de Dieu n'est pas injuste. Mais avant de risquer porter un jugement sur Dieu, sur ses actions, sur son plan divin, avant de vouloir trop rapidement comparer la prédestination avec le fatalisme tel que nous le rencontrons dans l'islam, voyons et comparons et considérons quatre aspects importants qui concernent l'élection de Dieu. Premièrement, l'élection divine concerne non pas un peuple ou une nation comme telle, mais elle concerne des individus qui, eux, forment un peuple, une nation. Israël est à la fois une nation, mais c'est aussi un peuple mis à part par Dieu. L'apôtre Paul écrit au verset 6, « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Au verset 8, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors en d'autres mots, l'apôtre Paul précise dans ses versets 1 à 12 que si Dieu a choisi Israël en tant que nation, s'il a révélé à cette nation sa gloire, s'il a fait avec cette nation une alliance, s'il a donné à cette nation sa loi et des promesses, tout cela n'implique pas ou ne donne pas automatiquement le salut à tous les membres de cette nation. Par exemple, nous constatons que de la descendance d'Abraham, Dieu fait un choix entre Isaac et Ismaël. Les deux sont israélites et pourtant la promesse de Dieu concerne seulement Isaac. Et les deux fils d'Isaac sont israélites et pourtant de ses deux frères jumeaux, Dieu aime Jacob et il haït Ésaü. Et dans l'Église du Nouveau Testament, c'est un petit peu la même chose. Jésus compare l'Église à un champ de blé au milieu duquel il y a de l'ivraie. Alors d'abord, j'aimerais quand même dire que quand on voit un champ de blé, on ne voit pas un champ d'ivraie. On voit un champ avec surtout du blé, mais on sait aussi qu'il y a au milieu de ce champ de l'ivraie. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne? Bien, cela signifie que tous les gens qui vont à l'Église, qui entendent la parole de Dieu, qui reçoivent les sacrements, ne sont pas tous des chrétiens, des élus de Dieu. Je me souviens lorsque je jouais au rugby, certains de nos supporters portaient le même uniforme que nous. J'imagine que ce soir, au stade de Gerland, il y a beaucoup de gens qui vont ressembler beaucoup aux joueurs eux-mêmes. Mais je me souviens, lorsque nous étions tous ensemble, personne n'aurait pu faire la différence entre les vrais joueurs et les faux joueurs, en tout cas avant le match, car après le match, il n'y avait plus aucun doute. Mais nous étions tous habillés pareil, tous dans le même autocar qui nous menait au stade. Nous avions tous la même passion pour le rugby, pourtant, nous n'étions pas tous des rugbymen. Alors il faut distinguer entre l'Église visible et l'Église invisible. Alors l'Église invisible, ce sont les vrais chrétiens dans le monde entier, qui sont de toute langue, de toute nation, le peuple élu de Dieu. L'Église visible, lorsqu'elle est fidèle à l'Écriture, rassemble une grosse partie de ce peuple, mais ce n'est pas automatique. Tous ne sont pas automatiquement d'authentiques chrétiens. Là, je vais encore redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Jésus parle d'un champ de blé, il parle d'un champ de blé dans lequel il y a de l'ivraie. Ce n'est pas un champ d'ivraie dans lequel il y aura quelques pousses de blé. Ainsi, quand on voit l'Église visible, on s'attend à ce que la majorité des gens qui sont là sont réellement des chrétiens, nés de nouveau, mais ce n'est pas automatique. Alors, nous avons vu que l'élection divine est de Dieu, qu'il se choisit des individus qui forment un peuple qui est l'Église, mais en précisant que tous ceux qui sont dans cette Église ne sont pas automatiquement des élus de Dieu. Alors maintenant, revenons à notre question de la justice ou de l'injustice de Dieu concernant l'élection. Je disais tout à l'heure que nos sélections étaient en fonction de ce qui nous paraît le meilleur, le plus rentable, le plus durable. Ainsi, notre choix varie en ce qui est bon, très bon, moins bon, mauvais. Plaçons-nous un instant sur le trône de Dieu et voyons ce qu'il nous dit qu'il voit quand il regarde, il nous voit tous. Alors Dieu regarde, il observe et il constate une chose. Il cherche sur toute la terre un homme, une femme, un enfant qui soit vraiment juste. Et il cherche, et il cherche, et il continue à chercher, et il nous donne, il donne à l'apôtre Paul la conclusion de sa recherche, Romains chapitre 3, verset 10, « Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Alors c'est vrai que ça nous renvoie à ce que nous savons, j'espère tous, et que chaque dimanche nous sommes confrontés à cette réalité, nous sommes tous nés avec cette terrible condition, nés pécheurs, et nous passons notre vie à confirmer cette tare. Alors ce n'est pas une question de quantité de péché, que nous soyons plus ou moins pécheurs, ça revient au même. Nous sommes réellement coupables. Alors certes, il y a des degrés différents d'intensité de péché, mais la conclusion est sans équivoque. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, est-ce que nous voulons vraiment parler et argumenter avec Dieu au sujet de ce qui est juste ou injuste? Discuter avec celui qui est le juste par excellence. Voulons-nous discuter avec celui qui dit que, à cause de sa sainteté et de sa justice, Exode 34, 7, qu'il ne tient pas le coupable pour innocent? Alors, une chose est certaine. Non seulement Dieu ne voit, ne nous doit rien, mais en plus de cela, pour rester juste, en réalité, il doit tous nous condamner. Mais par amour. Et un amour, je dirais, qui est plus incompréhensible que l'élection. Il a envoyé son Fils unique pour prendre sur lui, qui était sans faute, lui qui était sans péché, toute la rétribution, notre rétribution, à savoir la mort. Donc, de toute éternité, on voit que Dieu s'est choisi un peuple selon des critères qui lui sont propres. Mais c'est certainement pas parce que les élus sont meilleurs que d'autres. Et il a choisi de faire miséricorde à ce peuple en leur donnant ce qu'ils méritaient, c'est-à-dire en ne leur donnant pas ce qu'ils méritaient, pardon, la mort et la séparation éternelle avec Dieu, et en leur faisant grâce, en leur donnant ce qu'ils ne méritaient pas. Ce qui nous mène à la conclusion que tout est grâce pour les élus et tout est justice pour ceux qu'il a laissés de côté. Alors depuis que j'ai compris cette doctrine biblique de l'élection, je vous assure que le mot grâce a pris tout un nouveau sens pour moi. Alors, bien que l'image soit bien imparfaite, imaginez pendant un instant le naufrage d'un bateau de pêcheurs en mer du Nord. Pêcheurs de poissons, mais le jeu de mots porte tout son sens. Et tous les passagers sont à la mer, destinés à périr dans cette eau glacée. Et vous arrivez avec une barque et vous secourez quelques-uns des naufragés. Tous devaient périr. Est-ce injuste que tous ne soient pas sauvés? Si on regarde la situation d'un point de vue de ce qui est juste ou injuste, personne ne devait vivre. Vous êtes dans l'eau et vous voyez cette barque arriver vers vous et vous ne dites pas « c'est injuste que cette barque soit là et qu'elle ne puisse pas prendre tout le monde ». Vous dites plutôt « béni soit cette barque qui sauve des hommes qui périssaient. Vous savez, mes amis, l'émerveillement de l'élection divine, et ça reste un mystère, je vais insister là-dessus, mais l'émerveillement de l'élection divine, ce n'est pas que Dieu, dans son amour infini, n'a pas élu toute la race humaine. Mais l'émerveillement, c'est qu'il a sauvé quelques-uns, et pour cela, il a payé le prix très élevé de son Fils. Ce qui nous mène à notre troisième point. Dieu a élu des individus qui forment un peuple, il nous a sauvés par pure grâce, et troisièmement, ils sont élus en Jésus-Christ. Revenons au texte d'Éphésiens, chapitre 1, verset 4. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mes amis, lorsque la venue du péché dans le monde... La venue du péché dans le monde n'était pas un accident de parcours ou une bavure dans le plan parfait de Dieu. C'était prévu. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Mais dans son omniscience, il en avait par avance une pleine connaissance et de toute éternité, il a choisi de régler le problème du péché par son Fils Jésus-Christ. Ainsi, de toute éternité, avant la fondation du monde, Dieu a déjà choisi ses élus en Jésus-Christ. Tous les élus de Dieu qui sont morts avant la venue sur terre de Jésus-Christ sont morts en vue de la venue de Jésus-Christ. Et cela nous permet de comprendre un verset qui, à première lecture, semble très difficile, le verset 13 de Romains 9, quand il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu n'a pas aimé Jacob plutôt qu'Ésaü parce qu'il serait meilleur que l'autre. Mais il l'a aimé uniquement parce qu'il a vu Jacob en Jésus-Christ. Dieu voit Jacob lavé de ses péchés. Il le voit ainsi sans péché parce qu'il le voit en Jésus-Christ. Il n'y a plus rien qui le sépare de l'amour de Dieu parce que en Jésus-Christ. Alors Dieu haït le péché, et sans Jésus-Christ, toute personne est haïssable aux yeux d'un Dieu qui est trois fois saint. Et ça veut dire que si ce soir, vous êtes ici, et que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, que vous l'avez invité à être le sauveur de votre vie, le Seigneur de votre vie, vous n'avez pas vraiment besoin de vous poser la question « Suis-je un élu de Dieu ?» Votre choix de suivre Jésus-Christ vous a été donné par Dieu qui vous précède toujours et qui nous a donné l'Esprit Saint pour que vous puissiez faire ce choix. Alors si vous avez fait cette démarche de foi personnelle, Dieu vous voit comme il a vu Jacob avant que celui-ci ne soit né. Il vous voit en Jésus-Christ. Il vous aime comme il a aimé Jacob, comme vous, parents, vous aimez déjà votre enfant alors qu'il est encore dans le ventre de la mère. L'élection divine est individuelle, elle est pure grâce, elle est en Jésus-Christ, mais j'aimerais quand même terminer en disant que ça n'enlève en nul cas notre responsabilité humaine individuelle. L'Écriture nous enseigne que d'un côté, Dieu choisit ses élus, mais la même Bible nous enseigne que les hommes sont responsables pour eux-mêmes. Sachez qu'il n'y aura pas en enfer un seul innocent. Ça, c'est le contraire du fatalisme de l'islam. Dieu a créé l'homme libre, donc responsable. Un des plus grands prédicateurs du siècle dernier, le pasteur Spurgeon, un Anglais, sur cette question, il a dit dans une de ses prédications, « Je vous poserai une question. » Il a dit, « Y a-t-il une personne présente parmi nous qui désire être sainte, qui désire être régénérée, qui désire quitter sa vie de péché et marcher avec Dieu ?» Certains diront, moi. Alors, Spurgeon leur a dit, Dieu vous a élu. Pourquoi? Parce que ce désir-là ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui place en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui place en nous le désir d'être régénéré, de quitter le péché. Ce n'est pas un désir naturel. L'apôtre Paul ne dit-il pas que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu? Et puis, continua M. Spurgeon, dans la même assemblée, une autre personne répond « Non, je ne m'intéresse pas à cela. Je n'ai pas le désir d'abandonner mes péchés, mes vices. Non, je les aime trop. Je m'y plais à un point, c'est tout. » Et le pasteur Spurgeon répond « Pourquoi vous plaignez-vous en disant que Dieu ne vous a pas élu ? Si aujourd'hui, Dieu vous avait choisi pour vivre une vie de sainteté, vous diriez que cela ne vous intéresse pas. Si j'ai dans la main quelque chose pour laquelle nous n'avons pas d'intérêt, et que je dise, je la donnerai à un autre, vous n'avez pas le droit de dire, c'est injuste, parce que je ne voulais pas donner, car selon votre confession, vous n'en voulez pas. » Vous savez, il y a un texte dans Deutéronome 29 qui dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Alors les choses cachées, c'est par exemple le pourquoi Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Pourquoi Dieu vous a choisi. Les choses révélées, c'est que Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes, des femmes et des enfants par la folie de la prédication. Et l'appel de Dieu est sincère. C'est pourquoi le texte qu'on a cité plus tôt aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ouvrez-lui votre cœur et confirmez votre élection. Alors pour conclure, j'aimerais dire combien pour moi la doctrine de l'élection me pousse et devrait nous tous nous pousser à l'adoration, car plus je découvre la grâce de Dieu dans ma vie, plus j'ai envie d'adorer Dieu. Mais la doctrine de l'élection est aussi une des doctrines les plus réconfortantes pour l'évangélisation, car j'ai de l'espoir pour n'importe qui. La pire des personnes, comme la meilleure des personnes, peut se tourner vers Dieu en Jésus-Christ. Pour Dieu, il n'y a pas un seul cœur qui soit trop dur à briser. Je vous rappelle que la ville de Corinthe, par exemple, était une ville très polluée par la corruption. Et le Seigneur a dit à l'apôtre Paul dans Actes 18:10, « Ne crains point, mais parle, ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Quelle promesse de Dieu pour l'apôtre Paul qui fait face à une ville extrêmement difficile quant à l'évangélisation, mais il a cette confiance que parce que Dieu a déjà choisi un peuple nombreux dans cette ville, il peut parler avec assurance. Alors, nous ne connaissons pas qui sont les élus de Dieu, mais lorsque quelqu'un devient chrétien, nous découvrons celui ou celle avec qui nous allons passer toute l'éternité. Et mes amis, personne ne peut dire qu'il ou qu'il n'est pas une élue ou un élu. Dans ce mystère qu'est l'élection divine, il y a aussi le mystère de notre responsabilité de répondre ou de rejeter l'évangile. J'ai toujours dit, les enfants qui sont nés dans l'Alliance n'ont qu'un choix. C'est celui de rejeter Dieu, car ils ont été mis dans l'Alliance, ils ont les oracles de Dieu qui leur sont donnés jour et nuit, et ces enfants-là reçoivent la foi à un moment ou à un autre, on ne sait pas quand, et leur seul choix, c'est de rejeter l'Évangile, et on prie bien sûr que pas un de nos enfants fasse ce choix-là. Et à la porte du ciel, je peux imaginer qu'il y a un verset biblique à l'extérieur de cette porte, vu par tous ceux qui approchent cette porte. Et c'est Romains, chapitre 10, verset 13, qui dit en grand, j'ai dit imaginer, parce que c'est pas dans la Bible, ça, enfin, c'est dans la Bible, mais c'est pas dit que c'est marqué au ciel. Mais imaginez, à l'extérieur, vous voyez, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis à l'intérieur, lorsque vous êtes rentré par cette porte, que vous avez passé de cette porte, je peux imaginer, en vous retournant, qu'il y a un autre verset, c'est Galates 1:15, appelé par sa grâce. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, ce mystère de l'élection nous dépasse. Nous prenons ta parole comme étant la vérité et nous en faisons sortir cette vérité et nous sommes tellement reconnaissants que dans ta grâce, avant même que nous soyons nés, tu nous connaissais et tu nous as choisis. Et tu nous as vus en Jésus-Christ. Donc, avec sa perfection. Seigneur, nous sommes, quand on y pense vraiment, c'est bouleversant. Aide-nous, Seigneur, de rester bouleversés par cette promesse et cette doctrine de la grâce toute notre vie, que jamais il y ait un moment où on se lasse de cela, où on s'y est tellement habitué qu'on ne prend pas conscience de ce que c'est. Donne-nous aussi, Seigneur, avec cette doctrine de la grâce, de l'élection, d'avoir de l'espoir pour tous ceux qui sont autour de nous. Donne-nous le courage de parler, comme tu l'as dit à l'apôtre Paul, parce que tu es un peuple nombreux. Seigneur, nous sommes conscients que ce n'est pas par tous nos arguments qu'on va réussir à convaincre quelqu'un de se tourner vers toi. Oui, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les convaincre, mais nous savons que c'est parce que ton esprit est là pour ouvrir un cœur, pour ouvrir un esprit, pour donner un désir de chercher plus loin. Seigneur, permets-nous avec cette doctrine de la grâce, de l'élection, d'être des adorateurs qui apprécieront d'autant plus ce moment de culte quand chaque semaine on est rassemblés pour justement nous souvenir de ce que tu as fait pour nous et que notre élection est scellée et certaine parce que c'est toi qui l'as faite. Ça ne dépend pas de nous. Alors Seigneur, avec toutes ces grâces, en retour, nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons marcher avec toi. Et merci encore pour cette table devant nous qui nous rappelle chaque dimanche que le prix que tu as payé a été un prix très fort, celui du sacrifice de ton propre Fils, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on peut te prier maintenant en son nom. Amen.